Chers collègues, bonjour. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le docteur Modelli ainsi que les organisateurs de cette conférence, la conférence annuelle de l'Association des cancérologues gynécologues indiens, pour leur aimable invitation à participer à ce débat sur les avancées majeures réalisées dans la lutte contre le cancer du col utérin, à partir d'études réalisées en Inde par le Centre international de recherche sur le cancer, en collaboration avec plusieurs institutions nationales indiennes. Je voudrais m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous, malgré l'invitation du docteur Modelli et des organisateurs il y a quelques mois, en raison d'un impératif imprévu qui se déroule en même temps que cette conférence. Je remercie tous mes collègues de bien vouloir excuser mon absence. Comme vous le savez, le cancer du col utérin occupe toujours le premier rang des cancers féminins dans de nombreux pays en voie de développement, et l'Inde ne fait pas figure d'exception. De fait, 80% des cancers du col utérin enregistrés dans le monde sont recensés en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. En Inde, des tendances intéressantes se dégagent. En moyenne, le taux d'incidence annuel du cancer du col utérin est d'environ 25 à 30 pour 100 000 femmes. Grâce à certains registres du cancer basés sur la population, existant en Inde depuis longtemps, nous disposons de données sur l'incidence du cancer du col utérin dans le pays. Vous pouvez constater que le cancer du col utérin a enregistré un déclin progressif dans certaines populations au cours des 2 dernières décennies, en raison du développement socio-économique et de modifications des profils reproductifs. Cependant, cette réduction de l'incidence du cancer du col utérin ne peut être accélérée que par un programme d'intervention tel que le dépistage ou la détection précoce de la maladie. Il est important de constater qu'un quart des cas de cancer du col utérin enregistrés dans le monde sont recensés en Inde, avec 123 000 nouveaux cas et 71 000 décès chaque année. L'impact du cancer du col utérin en Inde est donc extrêmement important, compte tenu de son influence sur l'impact mondial. La lutte contre le cancer du col utérin en Inde aura des répercussions majeures à l'échelle mondiale. Malgré le risque accru auquel est exposé notre pays, aucun effort organisé n'a été déployé pour lutter contre le cancer du col utérin. En réalité, il n'existe aucun programme de dépistage organisé, car la mise en place d'un tel programme se heurte à divers obstacles, tels que le coût élevé d'un programme de dépistage, des difficultés logistiques par rapport aux différentes approches de dépistage, ou encore une infrastructure inadaptée. En effet, l'Inde ne dispose pas à l'échelle nationale de suffisamment de prestataires en termes de dépistage, de colposcopie et d'infrastructures pour traiter les lésions précancéreuses et en assurer le suivi. Tout ceci a contribué à entraver la mise en place d'un programme de dépistage dans notre pays. Cette diapositive présente des données issues de 6 grands centres de cancer du pays. D'après ces données, environ un tiers des patientes atteintes d'un cancer du col utérin n'achèvent pas leur traitement ou ne reçoivent aucun traitement. Environ un quart des patientes atteintes d'un cancer du col utérin localisé, soit d'un cancer de stade 1 ou éventuellement de stade 2, ne reçoivent aucun traitement ou n'achèvent pas leur traitement. Nous avons comparé la survie à 5 ans après un cancer du col utérin dans différentes régions de l'Inde, à partir de données issues de registres du cancer basés sur la population, avec des statistiques similaires issues de divers pays tels que la Thaïlande, la Chine, les Philippines, Singapour et certains pays d'Afrique. On peut constater que la survie à 5 ans est extrêmement variable. Dans les régions où les services de cancérologie sont les moins bien organisés, le taux de survie est moins important et se situe aux alentours de 35-40%. En revanche, dans les régions urbaines, le taux de survie est compris entre 50 et 60%. D'un autre côté, dans le cas de la Thaïlande, qui vient de mettre en place dans la plupart des régions un système de sécurité sociale plus développé, la survie à 5 ans atteint pratiquement 60%. En Chine, on constate également un écart significatif entre les régions urbaines et rurales, tandis qu'à Singapour, un pays pourtant doté d'une excellente infrastructure de santé, le taux de survie à 5 ans atteint environ 75%. Les taux de survie de certaines régions sont similaires à ceux enregistrés en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'une importante constatation qui ne doit pas être négligée. Différentes études ont été menées par le Centre international de recherche sur le cancer en collaboration avec plusieurs institutions nationales, telles que le Tata Memorial Center, la All India School of Medical Science, le Nargis Dutt Memorial Cancer Hospital, le Chittaranjan National Cancer Institute, le Cancer Institute de Chennai, le Christian Fellowship Community Health Center, le Nargis Dutt Memorial Cancer Hospital, le Christian Medical College Hospital, le Regional Cancer Center de Trivandrum, le PSG Institute of Medical Science and Research et le Bhagwan Mahavir Cancer Hospital de Jaipur. Ces études se sont intéressées aux différentes méthodes de dépistage pouvant être utilisées dans les différents contextes de l'Inde et dans les différentes régions du pays, dotées de systèmes de sécurité sociale différents. À la performance de ces tests, aux statistiques relatives à la précision des tests et à leurs limitations, à la logistique à mettre en place pour ces programmes de dépistage en fonction des tests utilisés, à l'efficacité des programmes de dépistage en termes de réduction de l'incidence et la mortalité du cancer du col utérin, ainsi qu'au rapport coût-efficacité de ces programmes. Nous analyserons brièvement les résultats au cours des 10 prochaines minutes. Le test cytologique est le test de dépistage standard dans les pays développés. Un test cytologique de qualité est efficace, mais il est difficile de garantir la qualité du test en présence de plusieurs obstacles, tels qu'une inadéquation des ressources, du personnel, des ressources physiques et de l'infrastructure. Plusieurs tests alternatifs ont vu le jour. Les tests à technologie simple, tels que l'inspection visuelle à l'acide acétique et l'inspection visuelle avec soluté de Lugol, et le test HPV à haute technologie. L'inspection visuelle à l'acide acétique consiste à appliquer de l'acide acétique sur le col puis à attendre une minute. La présence d'une zone acidophile bien définie, à proximité de la jonction pavimento-cylindrique ou à proximité de l'orifice, ou une excroissance acidophile après application d'acide acétique, qui indique la positivité du test, signifie que les patientes sont susceptibles d'être atteintes de lésions cervicales précancéreuses ou de cancers invasifs précliniques. L'inspection visuelle avec soluté de Lugol consiste à détecter la présence sur le col d'une zone de couleur jaune moutarde, non marquée par l'iode. La patiente est alors susceptible d'être atteinte d'un cancer du col utérin. Cette diapositive présente la sensibilité et la spécificité moyenne des tests de dépistage, ainsi que l'intervalle de ces paramètres, issus d'un certain nombre d'études transversales bien menées, au cours desquelles la colposcopie et la biopsie étaient des examens standards de référence. Dans ces études, fondées sur de larges populations de femmes, la sensibilité moyenne était de 58% pour le test cytologique, de 67% pour le test HPV, de 77% pour l'inspection visuelle à l'acide acétique, de 64% pour l'inspection visuelle à l'acide acétique avec faible grossissement, et d'environ 90% pour l'inspection visuelle avec soluté de Lugol. La spécificité des tests par inspection visuelle était d'environ 85%, contre 95% environ pour le test cytologique et 94% environ pour le test HPV. Ce que l'on peut retenir est que dans les milieux indiens, dans ces études, les tests par inspection visuelle avaient la même sensibilité que le test cytologique, voire même dans certains milieux une plus grande sensibilité. En revanche, ils avaient une spécificité moins importante. Dans les milieux à ressources limitées, une sensibilité élevée est importante car le dépistage ne peut pas être effectué aussi souvent que dans les programmes de dépistage occidentaux. Les études indiennes ont également adopté une stratégie alternative très importante visant à maximiser la participation des femmes au dépistage ainsi qu'au suivi du diagnostic et du traitement. Ces études ont employé la méthode suivante. Le dépistage est effectué et les résultats sont immédiatement disponibles. Une colposcopie est effectuée sitôt après. Une fois le diagnostic colposcopique établi, une biopsie est pratiquée. Lorsque la lésion est totalement ectocervicale et couvre moins de 75% de la zone de remaniement, les patientes sont traitées par cryothérapie. Lorsque les lésions sont de grande taille ou atteignent le canal, les patientes sont traitées par RAD ou par conisation. En cas de suspicion de cancer invasif, les patientes sont adressées au centre de cancer pour recevoir un diagnostic et un traitement. Une autre stratégie importante a été d'effectuer un dépistage unique de qualité. La théorie est la suivante. Si la population a été couverte par le dépistage unique, et dans la mesure où le pays ou la région apporte les ressources nécessaires, le dépistage peut être de nouveau effectué 5 ou 10 ans après. Je vais maintenant vous présenter les résultats de deux importants essais cliniques, randomisés, menés en Inde, destinés à évaluer le dépistage du cancer du col utérin. Le premier est un essai randomisé visant à évaluer le dépistage par inspection visuelle à l'acide acétique en termes de réduction de la mortalité du cancer du col utérin dans le district de Dindigul. Ce projet a été mené en collaboration avec le Christian Fellowship Community Health Center, le PSG Institute of Medical Science and Research, le Cancer Institute et le Centre international de recherche sur le cancer, et financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Ce large essai randomisé par groupe, mené dans le district de Dindigul, a concerné environ 92 000 femmes âgées de 30 à 59 ans, réparties dans environ 113 groupes. La moitié de ces groupes ont été randomisés vers le bras dépistage unique, effectué par des infirmières qualifiées, tandis que la seconde moitié ont été randomisées vers le bras témoin, dans lequel les sujets ont reçu une éducation sanitaire sur la détection précoce du cancer du col utérin et ont été sensibilisés sur l'importance du dépistage afin d'inciter au dépistage dans le groupe témoin. Environ 48 000 femmes composaient le groupe intervention et environ 31 000 femmes composaient le groupe témoin. Dans le groupe intervention, environ 70% des femmes ont participé au dépistage. Environ 10% d'entre elles ont été dépistées positives, soit présentées une lésion acidophile décelable après application d'acide acétique. Ces dernières ont subi une colposcopie effectuée par des infirmières qualifiées et placées sous la supervision d'un médecin. Des biopsies ont été pratiquées chez les patientes présentant des anomalies à la colposcopie. Les taux correspondent au taux de détection des cancers du col utérin. Le taux de détection des cancers de haut grade était de 7 pour 1000 femmes dépistées. Celui des cancers invasifs était de 3 pour 1000 femmes dépistées. Le taux de détection des cancers invasifs dans le bras témoin au cours de la même période figure également sur ce graphique. L'étude démontre essentiellement que parmi 100 femmes dépistées par inspection visuelle à l'acide acétique, une seule est atteinte d'un cancer du col de haut grade ou d'un cancer invasif. Une seconde étude a été menée dans le district d'Osmanabad, dans l'état de Maharashtra, en collaboration avec le Tata Memorial Center à Mumbai et le Nargis Dutt Memorial Cancer Hospital à Barshi, en Inde. Cet essai randomisé contrôlé par groupe vise à comparer l'efficacité du dépistage par IVA par rapport au dépistage par test HPV et au dépistage par test cytologique dans la lutte contre le cancer du col utérin. Cette diapositive présente le plan de l'essai de dépistage du cancer du col utérin mené dans le district d'Osmanabad. 52 centres de soins primaires ont été répartis dans les 4 bras de l'étude. Les 52 groupes ont impliqué 143 000 femmes. 13 groupes composaient le bras de dépistage par IVA, soit environ 33 000 femmes. 13 groupes composaient le bras cytologie, soit environ 33 000 femmes également. 13 groupes composaient le bras dépistage par test HPV. Et 13 groupes composaient le bras témoin. Dans ce dernier groupe, les femmes ont reçu une éducation sanitaire sur le dépistage précoce du cancer du col utérin et ont été informées de la disponibilité des services de cytopathologie. Celles qui se sont rendues au Nargis Dutt Memorial Cancer Hospital ont bénéficié des services de cytopathologie. Environ 70% des femmes invitées dans chaque groupe ont participé au dépistage. Le taux de positivité du dépistage était d'environ 14% dans le bras dépistage, d'environ 7% dans le groupe cytologie au seuil ascus et d'environ 11% dans le bras HPV. L'étude montre qu'à l'issue de la phase de dépistage, pour 100 000 femmes dépistées par IVA, par cytologie ou par test HPV, une était atteinte d'une lésion cervicale précancéreuse de haut grade ou d'un cancer invasif. Cela signifie que le taux de détection des lésions de haut grade et des cancers invasifs était similaire dans les bras IVA, cytologie et HPV. Cependant, 13% des femmes ont été dépistées positives dans le bras IVA, 11% dans le bras HPV et 7% dans le bras cytologie. Dans le groupe témoin, environ 10% des femmes ont demandé un test cytologique et ont été dépistées. Dans les deux études, l'essai de dépistage mené dans le district de Dindigul et l'essai de dépistage mené dans le district d'Osmanabad, les femmes ont été suivies de façon active et passive afin de connaître l'incidence et la mortalité du cancer du col utérin dans les groupes à l'étude. D'ici la fin de l'année 2006, nous saurons dans quelle mesure le dépistage unique au cours de l'existence permet de réduire l'incidence et la mortalité du cancer du col utérin par rapport au groupe témoin, et nous connaîtrons le rapport coût-efficacité de ces différentes méthodes de dépistage. Cette diapositive vous présente la répartition par stade des cancers invasifs diagnostiqués dans les différents bras de l'essai randomisé de dépistage mené dans le district d'Osmanabad. La proportion de cancers localisés de stade 1 est nettement plus élevée dans les groupes d'intervention que dans le groupe témoin. Ceci n'est pas surprenant, c'est la conséquence d'un dépistage actif. Comme je l'ai dit précédemment, la méthode consistant à effectuer une colposcopie, établir un diagnostic colposcopique, effectuer une biopsie, puis chaque fois que possible traiter par cryothérapie, signifie que dans un même contexte, un dépistage, une colposcopie et une cryothérapie sont effectués. Dans ces situations, le stade histologique des lésions biopsiées est connu après le traitement. Dans le projet du district d'Osmanabad, comme dans celui du district de Dindigul, environ 4400 femmes ont subi une colposcopie, une biopsie et une cryothérapie, ou alors une RAD, effectuée immédiatement. Les résultats de la biopsie ont été obtenus ultérieurement. Cela signifie que la stratégie consistant à effectuer une colposcopie, pratiquer une biopsie, puis traiter, entraîne un taux de surtraitement de 36%. Les résultats des traitements par cryothérapie ou RAD sont essentiellement issus d'études menées dans les pays occidentaux, et dans un contexte hospitalier contrôlé. Dans nos études, à partir d'un grand nombre de cryothérapies effectuées par des infirmières ainsi que par des cliniciens juniors sur le terrain, nous avons pu déterminer les taux de guérison pour les différents types de lésions. Comme vous pouvez le constater, les taux de guérison sont plutôt satisfaisants pour les lésions SIN 1 et SIN 2 et 3, à la fois avec cryothérapie et RAD. Actuellement, la cryothérapie par double congélation est la technique standard de cryothérapie. Cette technique consiste à congeler le col 2 fois 3 minutes avec un intervalle de 5 minutes. La durée totale du traitement est donc de 12 à 15 minutes. Actuellement, un essai clinique randomisé est en cours pour évaluer la cryothérapie par simple congélation, qui consiste en une congélation unique de 3 minutes par rapport à la cryothérapie par double congélation. Cet essai impliquera plus de 600 femmes présentant des lésions SIN. À ce jour, les résultats préliminaires montrent que les taux de guérison associés aux techniques par simple et double congélation sont pratiquement identiques. Comme je l'ai dit précédemment, l'un de nos principaux objectifs est d'évaluer les coûts associés aux différentes interventions, ainsi que le rapport coût-efficacité des différentes méthodes de dépistage. Pour l'essai mené dans le district d'Osmanabad, nous avons évalué les coûts des différents éléments du programme de dépistage, tels que le recrutement, l'invitation, le dépistage par IVA, le test PAP, le test HPV, la colposcopie, le traitement des lésions précancéreuses, le traitement des cancers, etc. Ces informations sont présentées sur ce graphique. Pour l'essai mené dans le district d'Osmanabad, nous avons évalué le coût de la détection et du traitement d'une lésion SIN 2 ou 3 à l'aide de différentes méthodes de dépistage. Le coût du dépistage par IVA s'élève à 776 dollars. Le coût de la cytologie est d'environ 1135 dollars. Le coût du test HPV est en revanche nettement plus élevé compte tenu du coût actuel du test. Atteindre un taux de couverture important, utiliser un test approprié, adopter des stratégies alternatives pour maximiser le suivi du diagnostic et du traitement, et s'assurer que toutes les femmes dépistées positives sont diagnostiquées et traitées, voilà l'objectif que nous devons essentiellement rechercher. Cela garantira un bon rapport coût-efficacité du dépistage du cancer du col du utérin, indépendamment de la méthode utilisée dans les différents milieux où des ressources sont disponibles. L'expérience que nous avons acquise dans le cadre des études indiennes a largement présidé à la rédaction d'un document de référence sur la façon d'optimiser les programmes de prévention du cancer du col du utérin, notamment dans les milieux à ressources limitées. Ce manuel de référence a été publié par l'Alliance pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Pour résumer, plusieurs études indiennes nous ont permis de recueillir des données objectives sur la performance de différents tests de dépistage. Les taux de détection des lésions de haut grade associés à ces tests, les coûts associés aux différentes approches de dépistage, la faisabilité, l'acceptabilité et la sécurité des différentes méthodes de dépistage, l'efficacité des moyens thérapeutiques, tels que la cryothérapie effectuée par des infirmières et la RAD effectuée par des cliniciens juniors, le savoir-faire et la façon dont ces programmes peuvent être organisés. Dans les années à venir, les études démontreront également quel peut être le rapport coût-efficacité d'une réduction de l'impact du cancer du col utérin dans les milieux à ressources moyennes et limitées. Nous remercions vivement la Fondation Bill et Melinda Gates d'avoir financé ces études par l'intermédiaire de l'Alliance pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Merci de votre attention.